Bonsoir à tous et bienvenue pour le traditionnel podcast du lundi de Furia Liga. Au programme ce soir, comment l'éviter, le Clasico de la Muerte pour Julen Lopetegui. Peut-être un peu moins pour Ernesto Valverde, qui sera quand même privé de Messi, mais ça va être bouillantissime pour le premier Clasico sans Messi ni Ronaldo depuis 2007. C'est une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. On parlera aussi de la sensation l'Espagnol, pris en main par Rubi à l'intersaison, qui est actuellement en deuxième après sa victoire hier contre Huesca, l'ancien club de Rubi. Donc, on fera un gros focus sur les Pelicos. Et en fin d'émission, on revient aux bonnes habitudes avec la Segunda. Et on a un invité particulier, Adrien Rodriguez, le taulier de la Peña Granada, qui est présente régulièrement à Calmenes et partout en Espagne, très régulièrement, et souvent en Catalogne. Alors, on racontera nos anecdotes de voyage. Il y a du lourd. Notamment un passage à l'Espagnol, justement. On fera une petite transition. Ça, je pense qu'Adrien s'en souvient très bien. Pour m'accompagner ce soir, alors c'est moi qui suis en retard, donc du coup mes collègues sont en retard, mais Miguel Hernandez est bien présent.
Salut à tous.
Bonsoir à toi. La précision suisse, hein, l'horlogerie suisse.
Toujours.
On attend un deuxième comparse suisse, Michel Campos, qui va arriver un peu plus tard. Et Adrien qui nous rejoindra en fin d'émission. On va attaquer donc avec le classico de la mort, si on peut le baptiser ainsi, avec Julen Lopetegui qui a deux doigts de sauter de son poste d'entraîneur. Le Real Madrid a perdu à domicile 2-1 samedi contre Levante. Était-ce une surprise? On va voir. Moi, je ne suis pas ultra convaincu que c'était une énorme surprise, sachant que l'année dernière, c'est déjà fait un partout, Levante. Et le Barça qui a gagné contre Séville le choc de la journée, mais qui a perdu Messi pour trois semaines blessé, qui s'est cassé le radius, donc il sera forfait pour le Classico. On va pas commencer par le Real Madrid, parce que ça a quand même été le bombasse du week-end. Miguel, comment t'as perçu ce match-là? On rappelle que la décision s'est faite très rapidement dans le match, avec un but du commandant Morales, un pénalty de Roger Marti, sur deux interventions pas terribles de Raphaël Varane.
Oui, je pense que les tournants du match, c'est ça. Et c'est pas la première fois cette saison, en fait, que le Real perd des matchs, ou en tout cas se met dans des positions plus qu'inconfortables à cause d'erreurs ponctuelles de joueurs cadres de l'équipe, si on peut dire. Là, c'est Varane. Face au CSKA, c'était Kroos. Voilà, donc en fait, avant de tirer à boulet rouge sur Lopetegui, on va dire que ces cadres ne l'aident pas beaucoup, disons. Ces joueurs ne l'aident pas beaucoup pour mettre en place ce qu'il aimerait faire avec l'équipe. Maintenant, le match du Real, voilà, j'ai plus été en fait impressionné par le match de Levante, puisqu'ils sont sur une très bonne série avec ce 3-5-2 qui semble maintenant indéboulonnable. Et puis, ça... C'était pas vraiment une surprise. On pouvait se dire que le Real aurait théoriquement dû gagner facilement face à Levante, mais on voit que l'équipe de Levante, elle a été super bien construite avec ce 3-5-2 et qu'elle va être très difficile à bouger. Et puis, le Real, c'est fidèle à eux-mêmes ces dernières semaines, c'est-à-dire pratiquement pas de verticalité, un jeu stéréotypé, plat, sans idée. Point intéressant, je trouve que les remplacements et les remplaçants ont été très intéressants, notamment l'entrée quand il sort Asensio en fin de match. C'est un changement qui peut être quand même surprenant parce qu'on se dit que tu as besoin de marquer, qu'un joueur comme Asensio peut faire la différence. Et je pense que c'est quand même assez symptomatique que Lopetegui fasse ce changement-là, parce qu'au final, c'est un joueur qui aujourd'hui ne t'apporte rien à son niveau actuel. Et quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est le dézonage de Benzema sur le côté gauche. Il a fait énormément de bien en deuxième période, quand le Real cherchait désespérément un but. Il a fait énormément de bien en laissant l'axe à Mariano, et je me demande si c'est pas quelque chose que éventuellement Lopetegui pourrait renouveler. De toute façon, il n'y a plus grand chose à perdre, vu que de toute manière Marcos Asensio n'est pas à son meilleur niveau. Peut-être qu'un passage sur le banc, ça lui fera peut-être le plus grand bien. Et pourquoi pas aligner un trident Mariano au centre, dans l'axe, Bale à droite et Benzema sur le côté gauche, qui au moins n'est pas forcé de jouer dans l'axe puisqu'il y a déjà la présence de Mariano et qu'il peut décrocher et prendre les espaces, ce qu'il aime beaucoup, beaucoup faire.
On en a parlé il y a quelques semaines de Marco Asensio, qui a été mis dans les meilleures dispositions par le Real Madrid pour performer et qui ne rend pas du tout sur le terrain la confiance qui était mise en lui. Alors moi, c'est un joueur que j'adore. Je me répète souvent.
Ouais, moi aussi, c'est un joueur que j'adore.
Mais est-ce que justement, avant la Coupe du Monde, on parlait beaucoup d'une sorte de rivalité entre Asensio et Mbappé. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il a plus, il est plus sur le chemin d'Albert Luque finalement?
Oui, après, ces comparaisons, c'est un peu. Voilà.
Non, mais.
Il ne joue pas au même poste, donc on ne peut pas les comparer. Mais effectivement, on a placé. Parce qu'en fait, le problème avec ce genre de joueur, c'est qu'on sait qu'ils ont du talent. On sait qu'ils ont du talent et qu'il peut jaillir à n'importe quel moment. Le problème, c'est l'intermittence. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir mis en fait Marcos Asensio titulaire, il s'est vu avec le départ de Cristiano Ronaldo, on l'a mis titulaire directement sur l'aile gauche. Et j'ai l'impression que du coup, il se sent titulaire parce que qui est son remplaçant au final? Qui y a qui sur le banc qui est son remplaçant ou son concurrent direct? Il y en a pas. Celui qui pourrait éventuellement s'en rapprocher le plus, c'est Vinicius. Et Vinicius, il joue avec le Castille. Ou alors, à la limite, Lucas Vazquez, mais Lucas Vazquez est sur l'autre aile. Donc, en fait, il a, comme pas mal d'autres joueurs de l'équipe, il n'a pas vraiment de concurrence. Donc, du coup, il sait qu'il va être plus ou moins titulaire, quoi qu'il arrive. Et c'est un... ce qui, en fait, quand tu n'es pas en danger, tu ne donnes pas le meilleur de toi-même. Et c'est ce qui arrive aussi aujourd'hui au Real, avec des joueurs comme Marcelo, comme Kroos, comme voilà, qui savent qu'ils ont un poste pratiquement sûr dans l'équipe et qui du coup ça fait ils vivent en fait sur leur sur leurs années passées. Et je pense que quand je disais au début que le petit Guy était a beaucoup été trahi par ses cadres, je pense que là ça se vérifie.
Est-ce qu'il y a ça ressemble beaucoup à la situation du Barça en fait, avec finalement une équipe, un effectif assez restreint, très peu de concurrence. Et puis aussi, il faut bien admettre que par exemple, quand Carl Bachal n'est pas là, il y a des Yosol, là, il y a des Yosol. Pour le moment, de tout ce que j'ai vu avec le Real Madrid, il a quand même beaucoup, beaucoup de mal à se faire à son poste. Enfin, c'est pas du tout le même. Ça fait un peu penser à Théo Hernandez.
Ouais,
alors. Côté la saison dernière, je pense que Yosol a beaucoup plus de talent que Théo Hernandez. C'est une évidence. Mais l'adaptation est compliquée, et surtout quand tu passes derrière un monstre comme Carl Bachal.
Oui, c'est sûr. Et puis après, de nouveau, je pense que la dynamique actuelle de l'équipe n'est pas non plus à bien s'intégrer parce que du coup, il y a beaucoup de nervosité, beaucoup de pression sur les épaules. On a vu aussi que le Real a joué avec beaucoup, beaucoup de précipitation samedi. Donc, ça n'a pas aidé. Par contre, c'est un garçon qui, même s'il a beaucoup souffert sur son côté droit, on ne peut pas lui enlever que c'est un garçon qui est volontaire, qui se bat, qui fait en tout cas du mieux qu'il peut. Tu sais que si tu le mets, tu vas en tout cas avoir un joueur qui va se donner, qui va courir, qui va faire les efforts. Maintenant, c'est pas forcément récompensé et ça se voit pas forcément sur le terrain. Et puis évidemment, la comparaison avec Carvajal, elle est un peu, ça, c'est clair que Carvajal, c'est quand même autre chose, c'est un autre niveau.
Il y a aussi eu le retour de Isco, qui a été opéré de l'appendicite, qui a eu quelques semaines de repos. Tu l'as trouvé comment? Il a joué qu'une heure,
mais je pense que c'était normal quand on revient d'une blessure.
Est-ce que le titulariser était une bonne idée déjà?
Après le match, c'est facile de dire que peut-être que non, ou voilà, mais moi je trouve que peut-être que le petit guide pensait lui qu'il n'avait pas le choix de le faire jouer. C'est vrai que quand on voit que le problème actuel du Real, c'est d'avoir quelqu'un qui porte la balle au milieu, qui puisse éliminer en un contre un, créer des décalages, trouver des passes, Isco, c'est le joueur idoine pour jouer là. Maintenant, effectivement, il n'avait pas le jus pour jouer plus d'une heure. Et dans ce qu'on a vu, malgré tout, il a fait ce qu'il faisait les autres fois, c'est-à-dire il s'est proposé, il a essayé de porter le ballon. Il a beaucoup couru défensivement aussi. J'ai dans la tête une action où il est, c'est lui le dernier défenseur qui va tacler. Donc pour dire, il a pas négligé son travail défensif, mais du coup il a fini complètement carbo à la 60e. Et c'est un changement qui était logique au final.
On va parler aussi de la performance de Levante, parce que la saison dernière ils avaient fait un partout à Bernabéu. Je crois que c'est la quatrième journée. C'était pas Ouyer qui avait fait un grand match. C'était, j'ai oublié son nom. Ah là là, il joue, c'est le gardien de Las Palmas. Bref, Fernandez. Et Hoyer a réalisé un partidazo. Il a juste été battu par une mine de Marcelo, mais il les a rendus fous quand même.
Ouais, bah Hoyer, il a fait un match incroyable. C'est marrant parce que c'est, je crois qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, il avait fait 2 matchs de suite où il avait fait des boulettes. Et puis là, aujourd'hui, il sort un match incroyable. C'est souvent comme ça, les gardiens.
Il avait été chambré par les supporters de Levante lors des 6-2 à la Ciutat contre Séville.
Ouais, parce que là, il avait fait vraiment un match assez catastrophique avec pas mal d'erreurs. Mais en soi, Hoyer, c'est un bon gardien. C'est pas non plus. C'est pas un mauvais gardien. Mais peut-être aussi que le nouveau système, etc., lui donne peut-être plus d'assurance. Il est peut-être plus confiant aussi. Et voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il a fait des arrêts incroyables sur le coup franc de Bale, sur d'autres frappes. Il a vraiment été. Ça a été vraiment un mur. Et effectivement, il a pu que s'incliner sur cette mine de Marcelo. Mais il les a rendus fous. Je pense que c'est important pour Levante qu'il récupère la confiance, qu'il reste à ce niveau-là pour la suite.
C'est un peu surprenant cette Liga au final avec pas mal d'outsiders qui arrivent à performer. J'ai lu un article dans l'équipe où on parlait de Levante comme un club qui jouait le maintien. J'étais pas spécialement d'accord, et peu uniquement par la personne qui l'avait écrite. FH pour ceux qui voient. Mais moi Levante, je les vois comme pas du tout comme un club pour le maintien cette saison, mais pour aller jouer la première la table. Pas Je pense qu'ils ont, avec Paco Lopez, ils ont les moyens d'aller jouer la première table. Je sais pas ce que t'en penses, toi.
Oui, je pense aussi. Ils ont un projet de jeu qui est beaucoup plus ambitieux que par le passé. Aussi parce qu'il y a certains joueurs qui ont atteint une maturité aujourd'hui. On pense notamment à Morales qui, sur le tard quand même, mais reste l'étendard de cette équipe et apporte énormément. Mais effectivement, je suis pas du tout d'accord que ce soit une équipe qui va jouer le maintien. De nouveau, leur grande chance est. C'est le contexte particulier de cette Liga qui fait que beaucoup d'équipes sont regroupées sur très peu de points. Et en temps normal, je pense qu'il y a pas mal de points qu'ils ont pris sur ces 9 journées, qui en théorie n'auraient pas dû avoir si c'était une Liga comme les 2 ou 3 dernières années. Donc je pense que les points pris plus le nouveau système et la confiance, ça peut faire en sorte que effectivement qu'ils jouent le haut du tableau. Et d'ailleurs, cette Liga aussi serrée, c'est un régal parce que ça donne lieu à des matchs vraiment vraiment disputés où on a l'impression que toutes les équipes tentent vraiment leur chance parce qu'elles savent qu'elles ont vraiment une chance, contrairement à d'autres années où les équipes sortaient déjà battues sur le terrain et puis bah, ça donnait lieu à des corrections, quoi.
Il y a une vraie personnalité chez les entraîneurs de Liga, depuis plusieurs saisons d'ailleurs.
Oui, généralement ils essayent tous de jouer, d'aller faire quelque chose, d'obtenir le résultat. Et du coup, bah, on assiste justement, comme je disais, à des matchs vraiment disputés. Et ça nous donne, en tant que spectateur ou téléspectateur du match, c'est juste en fait du plaisir, un régal de voir deux équipes jouer pour gagner.
Pour terminer sur la partie Real Madrid, Lopetegui, bon, je pense que c'est pour lui. Est-ce que tu penses que le Classico peut le sauver déjà? Et est-ce que y a des noms qui ont commencé à chuiter? Est-ce que c'est pas encore une fois pour Florentino Pérez morne pleine au niveau des remplaçants potentiels? Alors, plus dans les remplaçants potentiels, moi j'ai lu Antonio Conte qui n'est pas accepté par le vestiaire, Solari qui viendrait du Castilla mais qui n'est pas, qui a des, y a des voix discordantes au sein du vestiaire, Roberto Martinez qui en ce moment est avec la Belgique, et Laurent Blanc.
Il y a Guti aussi, moi j'ai lu.
Oui, Guti, qui était à Beşiktaş, mais il est numéro 2
Il est
à Beşiktaş.
second, je crois, à
Ah, il est
Beşiktaş.
adjoint à Beşiktaş. C'est quand même c'est compliqué parce que même Solari et Guti, ils ont beau avoir joué au Real Madrid, est-ce que il y aura peut-être deux fois l'effet Zidane, quoi. Sachant que Zidane, c'est quand même un autre calibre comme joueur.
Écoute, on est dans les œuvres de Pérez, quoi. Ce monsieur, ça fait plusieurs années que moi je comprends pas en fait sa politique. Déjà gamin, je me souviens que je comprenais pas sa politique avec les Galactiques. Et en fait, bah, ça montre simplement qu'il n'a pas appris en fait de ses erreurs passées, qu'il répète inlassablement. Donc, pour revenir à ta question sur Lopetegui, bah, Moi, j'ai bien envie de te dire que non, mais je pense que Florentino, dans sa tête, et d'après certaines sources en Espagne, il avait déjà envie de le virer après Alavés. Est-ce que le Classico peut lui donner du répit? Oui, parce qu'en plus, s'ils perdent effectivement le Classico face à un Barça qui est sans Messi, c'est vrai que ce sera compliqué que Florentino le garde. Maintenant, voilà, changer d'entraîneur maintenant au mois d'octobre, c'est on a vu les solutions qu'il y a, elles sont pas bonnes. En plus, Florentino Pérez, il est totalement, il veut rejeter la faute sur Lopetegui, alors que la plus grosse faute pour moi, elle vient de lui, qui a très mal planifié la saison. Ça fait des années que le Real s'affaiblit et ne se renforce pas. Il y a 2 ans, ils avaient vendu en même été James Rodriguez, Morata, Danilo, toute cette Unidabe qu'on avait appelé comme ça, qui jouait les matchs à l'extérieur et qui les gagnait. Tous ceux-là sont partis en été. L'été suivant, et déjà l'équipe s'était affaiblie. Et ça s'était vu en début de championnat où ils avaient de nouveau complètement lâché et ils se sont rattrapés heureusement avec la Champions face à Liverpool. Cette année, c'est Cristiano Ronaldo qui part et il nous sert le discours. C'est bon, il y a Asensio, il y a Benzema, il y a Bale qui vont marquer 50 buts par saison. Et je pense qu'il a fait passer son ego et son ambition avant le bien de l'équipe. On en parlait dans un article que j'ai écrit sur Foria Liga, que le stade qui veut couvrir le stade du Santiago Bernabéu pour un prix pharaonique. Il a préféré garder l'argent pour ça au lieu de renforcer l'équipe. Parce que comme on a dit avant, c'est ce qui se passe au Barça, il y a des joueurs un peu sénateurs, on pense à Kroos, à Marcelo, qui savent qu'ils vont jouer quoi qu'il arrive et qui donc se donnent pas à 100%. Je finis juste encore 30 secondes. Il dit qu'il veut changer d'entraîneur, très bien. Et là-dessus, je trouve qu'il a un vrai paradoxe parce que il supporte pas quand il y a des entraîneurs qui viennent, qui deviennent amis un peu avec les joueurs, qui ont mano blanda, si on peut dire ça, c'est-à-dire qui sont trop gentils, conciliants. Il aime bien les entraîneurs qui ont la main ferme avec les joueurs. Et pourtant, c'est les entraîneurs qui ne réussissent jamais. Et lui, il aimerait faire venir Conte, qui est un entraîneur qui est justement de cette trempe-là, mais qui va aussi à lui donner des problèmes, parce que Conte, il se marie avec personne. Ça y est, à la Juve, il est parti fâché avec pratiquement tout le monde, et c'était aussi le cas à Chelsea. Donc, je sais pas où veut aller Pérez, mais sa gestion du club est un problème depuis plusieurs années et il arrive très bien à maquiller ça avec des Champions League, mais pour combien de temps encore?
Ça évite le foot, hein, pas vrai? Lopetegui, ouais. il y a 3 mois, il allait gagner la deuxième étoile de l'Espagne et là, il est au bord du précipice et il
risque. Mais comme on l'avait dit, hein, je crois que c'était Ben dans un précédent podcast qui avait dit que c'était le fusible idéal. Ben oui, c'est vrai. Parce que c'est lui qui prend. Alors, il a certainement sa part de culpabilité. Hein, en tout cas, il a sûrement fait aussi des erreurs. Mais je trouve que l'accabler lui, qui au final subit toutes les mauvaises décisions.
Ouais, mais il a trahi aussi. C'est un mauvais choix. Il a trahi. Hein, donc,
On est d'accord. Ça, on est d'accord. Mais je pense que le PDG est dans une situation compliquée parce que dans la direction, on veut le virer. Et. D'après ce qu'on a pu lire, pas tous les joueurs sont d'accord avec lui. Il y a des joueurs comme Kroos ou comme Keylor Navas qui seraient assez mécontents de la gestion que fait de l'effectif.
Tu parlais de la gestion de la saison de Florentino Pérez, mettre Courtois, ramener Courtois voilà. Alors qu'il a Keylor Navas, c'est. Alors
on que est d'accord, ce n'était pas la priorité. Mais bon.
En plus, c'est une énorme erreur en termes de management de vestiaire, parce que Keylor Navas est adoré par le vestiaire.
Justement, et je pense que…
C'est une erreur monumentale d'avoir… Politiquement, ramener Courtois est une erreur. Parce que,
bien sûr, c'est une erreur, bien sûr. C'est un très bon gardien, mais le Real n'en avait pas besoin.
Oui, mais en plus, on en parlait avec… Télé Santana sur Twitter. Qui est un fidèle de Foria Liga, on en parlait, qui nous disait que qui disait de toute façon, on peut parler de Courtois. Il y a beaucoup de gardiens qui sont hypés, mais que de toute façon, à part Oblak et Ter Stegen, il n'y a pas photo. Et que et moi, de toute façon, je sais pas, Courtois, c'est pas un gardien que j'apprécie. Donc, en plus, Pierre Navas a fait ses preuves. Tu gagnes pas 3 Ligues des Champions consécutives si t'es une brêle. Et ça fait beaucoup penser au cas de Victor Valdés aussi.
Ouais, mais Keylor Navas, il vend moins, et dans la logique marketing de Florentino Pérez, ben voilà. Mais ouais, tu vois, comme je te disais, Kroos qui se plaint, il dit ouais, je veux pas être 6, etc. Je suis pas un Casemiro qui se plaint parce qu'il joue pas, mais en même temps, t'es hors de forme, tu veux jouer, et après quand tu veux jouer, tu refuses de jouer là où l'entraîneur te met. C'est quoi, c'est capricieux. C'est exactement la même chose qu'il avait fait avec les Galactiques. Pérez lors de sa première étape, et il avait dit qu'il les avait trop pourrigatés, et là c'est de nouveau la même chose. Et les joueurs choisissent, ça je trouve pas normal. À titre personnel, je trouve que ça c'est pas normal. Si tu veux jouer, bah tu joues là où l'entraîneur te met, et sinon bah voilà, sur le banc.
On va passer au Barça. Alors on a des petits problèmes logistiques avec Michel. Donc, on essaie d'aller vite. Mais eux, en revanche, les Barcelonais, ils étaient attendus au tournant et ils ont gagné contre l'Espagnol qui était leader, le Séville, pas le Machine, pardon. Et puis, voilà, les Blaugrana ont fait le boulot.
Ouais, ils ont fait Alors, en soi, dans la globalité, ils n'ont pas fait un match transcendantal non plus. Ils ont beaucoup profité des erreurs qu'a pu commettre Séville. Voilà. Sauf qu'ils ont dans l'équipe un joueur qui s'appelle Messi, et puis qui, avec une passe D et un but en 15 minutes, il t'a réglé le match.
Ça me dit rien, ce nom. Jamais entendu parler.
Ouais, petit joueur comme ça. Ouais. Mais voilà, oui, bah voilà, de nouveau Messi, de nouveau le facteur Messi, de nouveau le facteur Ter Stegen. Hein,
parce bonsoir. Que,
ah. Salut Michel.
Michel est là. Salut à toi. Ouais. Tu arrives pile pour ton club préféré, le Barça.
Ah ok, parfait.
tu dis ouais Miguel pour reprendre.
Oui, je disais que bah voilà, il y a Messi qui t'arrange le match en un quart d'heure, donc c'est plus facile. Donc quand c'est Messi qui réussit, et en plus derrière t'as l'effet Messi, t'as l'effet Ter Stegen, hein, donc les deux piliers de Valverde, bah voilà, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Et puis bah Séville, là ils ont payé leur mauvais début de match et leurs erreurs. Séville a fait un poteau, mais voilà. Ter Stegen, il a laissé le Barça dans le match en les sauvant avec des arrêts prodigieux. Et puis après, il y a un penalty très logiquement obtenu par le Barça qui met le 3-1. Et puis voilà, le 3-0, pardon. Et puis à 3-0, le match était plus ou moins fini. Donc, bah, sans faire un gros match, le Barça a gagné parce qu'il y a le facteur Messi et le facteur Ter Stegen.
Justement,
on va voir maintenant ce qu'ils vont être capables de proposer maintenant que Messi n'est pas là, pas seulement face à l'Inter ou face au Real, parce que bah voilà, face au Real c'est un match qui est toujours particulier, mais plutôt sur la longueur. Valverde il a 3 semaines en fait pour Valverde là pour moi il a 3 semaines de test pour prouver qu'il a les épaules pour entraîner le Barça.
On va faire un petit focus sur Ter Stegen. Je salue Adrien Rodriguez de la Peña.
Salut les gars, je sais pas si vous m'entendez bien.
Entendant parfaitement.
Ah salut. Ça fait plaisir
d'être avec vous. Un plaisir partagé. Tu peux intervenir quand tu veux aussi sur la Liga.
Ouais, ça marche.
T'es autorisé. un petit focus sur Ter Stegen. Il y a eu récemment le France-Allemagne en amical. Honnêtement, Manuel Neuer, s'il est meilleur que Ter Stegen, il doit être au-dessus des étoiles. Et j'en suis absolument pas convaincu ce que j'ai eu sur ce match amical. Alors évidemment, je ne regarde pas beaucoup de championnat allemand, pour dire quasiment peu. Mais Ter Stegen, quasiment, et il est exceptionnel.
Bah, Ter Stegen et Oblak, c'est les deux meilleurs gardiens du monde. Donc forcément.
Puis il a beaucoup progressé. Il a beaucoup progressé, Ter Stegen, surtout. La saison dernière, il a été vraiment. Il a pris une dimension. Je ne pensais pas qu'il
l'atteindrait. D'ailleurs, je recommande le trade qu'a fait Elias sur l'évolution de Ter Stegen qui est juste excellent. Donc, si vous pouvez aller le lire, parce qu'il résume pratiquement à la perfection l'évolution de Ter Stegen depuis qu'il est au Barça et le poids qu'il a pris dans l'équipe.
Il était en concurrence avec qui déjà il y a 2 ans, je ne me souviens plus, au Barça. Puis du coup, il a dit c'est où
avec Claudio Bravo.
Ah, Claudio Bravo, c'est ça, voilà, exactement.
Et ils se partageaient le poste
Ouais,
en
c'est ça, ouais.
champion et en Ligue 1.
Ouais, c'était ça, j'avais un blanc.
Mais c'est vrai qu'il y a une énorme dépendance à ce gardien de but parce que défensivement, en plus, là, il leur manque beaucoup de monde.
Bah, c'est une des rares bonnes choses qu'ils ont fait, le Barça, hein, dernièrement sur le mercato, d'avoir fait un pari sportif sur Ter Stegen et d'avoir vendu Claudio Bravo.
Oui, puis en plus, Claudio Bravo a largement dépassé la trentaine. J'ai l'impression que Ter Stegen, même si la formation allemande est réputée en termes de gardien de but, il est complètement. Il passe un peu à la trappe alors qu'il joue quand même, au Barça. Il passe un peu à l'as par rapport à des grandes générations de gardiens allemands, hein, les Sepp Maier, les Köpke, les Kahn, les Neuer. Mais
C'est
là, à l'heure
sûr.
actuelle, je ne vois pas à quel moment Neuer peut être au-dessus de lui et que, par exemple, bah, déjà à la Coupe du Monde, c'est lui qui revient de titulaire.
Voilà, surtout qu'il était blessé. Qu'il avait rien joué, puis il l'a quand même mis titulaire. C'était impressionnant, ça.
C'était une très grosse faute. Tous les trois, comment vous voyez le classico de la semaine prochaine, sachant que depuis 2007, il n'y aura pas ni Ronaldo ni Messi. Est-ce que déjà vous avez vécu, vous êtes un peu jeune, pardon. Ah non, mais non, Michel, t'as le même âge que moi. Est-ce que tu as déjà vécu un classico sans Ronaldo ni Messi? Je pense que c'est la première fois depuis que le classico est tellement hypé, en fait, qu'il n'y aura pas ces deux joueurs.
Bah, la dernière fois qu'il y a eu un classico sans Messi ou Ronaldo, c'était en 2003.
C'est pas 2007?
2007.
2007.
2007, pardon, tant pour moi, 2007. Ouais, j'avais lu un article là-dessus, c'était en 2007. Je pense que ça va donner un équilibre, étant donné que le Madrid part déjà avec un sérieux handicap du fait qu'ils sont en crise totale. Et l'absence de Messi, pour moi, va en fait un peu rééquilibrer l'avant-match, si on peut le dire comme ça. Je pense du coup que ce sera beaucoup plus réparti que si je pense que s'il y avait eu Messi, le Barça serait parti vraiment avec une belle longueur d'avance, à mon avis.
Adrien?
Bien sûr. Ouais, vous avez raison, je vous rejoins là-dessus, hein. Après, où c'est que ça se joue? Ça se joue à Barcelone, non, le match?
Oui,
Il me semble.
Barcelone, oui.
Ouais. Ouais, c'est ce que ouais, je vous rejoins sur ce que vous avez dit. Messi, ben, c'est vrai qu'il va pas mal manquer. Après, ça sera sûrement aussi je pense, la dernière cartouche de Lopetegui, hein. On va voir ce que ça donne. Mais bon, je sais pas.
Est-ce
À
que,
voir, à voir, à voir, à voir.
est-ce qu'au niveau collectif, le Barça, même si ça râle beaucoup chez les Blaugrana, ils sont quand même pas. Moi, je trouve qu'ils sont quand même beaucoup plus en avance que le Real. Et puis, il y a aussi un joueur qui commence à faire ses preuves, c'est Arthur. Ça sent encore il est arrivé tard, c'était un peu reporté, c'était un peu étrange. Mais il commence à bien prendre ses marques avec le Barça. Avec Coutinho, c'est peut-être les deux facteurs clés de cette équipe, avec Messi, dans le dernier tiers du terrain.
Ouais, je suis d'accord. Je pense que la première affirmation que tu as énoncée, c'est-à-dire que le Barça est en avance sur le Real. Le Real est en totale reconstruction. Et je pense qu'effectivement, le Barça, même sans Messi, a plus de certitude, malgré tout, dans le jeu, que le Real, qui est en totale perdition. Donc je pense que ça, déjà, ça va aider le Barça. Le Barça, comme on l'a dit, ils peuvent compter sur Ter Stegen en plus pour tout sortir. Et puis, effectivement, Arthur fait énormément de bien au milieu de terrain. Beaucoup pensent qu'il devrait être titularisé à la place de Rakitic. À mon avis, ça n'arrivera pas le soir du Classico. Et puis, quant à Coutinho, il est un peu dans ce rôle entre ailier et milieu de terrain, un rôle un peu hybride, alors que pour moi, il est vraiment, vraiment ailier. Enfin,
Ah,
il est
tu mets
trop.
plus aiglé que Italiol, toi.
Ouais, parce que pour moi, il est pas assez discipliné dans les tâches défensives, et je pense qu'il apporte plus en tant qu'ailier. Il a pas beaucoup de débordements, mais isolé sur le côté gauche, il peut rentrer, puis bon, bah, il a une patate monstrueuse, ou centrer, ou voilà. Je pense qu'en tant qu'ailier, il apporte plus de choses, et puis ça permet au plus au Barça d'avoir un milieu de plus pour jouer.
Justement, vous voyez quelle composition? Vous voyez un 4-3-3 contre 4-3-3?
Oui. À moins que Valverde surprenne et mette un 4-4-2 pour sécuriser en l'absence de Messi. Mais à mon avis, On verra juste un Dembélé, je pense, à la place de Messi côté Barça. Côté Real, ce qui va être intéressant, c'est bah, au vu de l'état de forme de certains joueurs, qui est-ce qui va jouer? Pour moi, l'équipe, elle est relativement claire. Le seul doute, c'est est-ce que c'est Isco ou Asensio qui va débuter le match. Moi, pour moi, c'est la seule vraie question, parce que le reste de l'équipe, de toute façon, il est clair.
Ah, tu penses que soit Isco, soit Asensio va jouer, mais que les deux ne vont pas jouer ensemble?
Non, parce que du coup, ça veut dire que tu enlèves qui? Ça veut dire que soit Kroos, soit Modric, soit Casemiro au milieu saute, ou alors Benzema ou Bale. Et pour moi, ces cinq-là, ils vont jouer d'office. Donc, il y a un poste à se partager pour ces deux joueurs.
Isco, c'est l'éternel recommencement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais Isco, il est toujours à la limite entre le 11e et le 12e.
Bah oui.
Même avec Lopetegui, avec qui il devait être fixe.
Du coup, c'est...
Michel ?
Pardon, du coup, par rapport à Isco, nous qui sommes jamais à Valdélé, là, je suis en train de voir les joueurs s'entraîner, etc. Faudrait que les... Enfin, moi, je suis de loin supporter du Madrid, hein, mais enfin, en tant que... Faudrait que nous, entre guillemets, supporters, on se pose la bonne question avec Isco. C'est pas le premier entraîneur qui le... Tu vois, je veux dire, qui le met pas. Et quand c'est un, bah, ça peut être un désaccord. Quand c'est deux, ok. Mais quand c'est trois, bah, ça commence à faire beaucoup. Donc, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas un problème de discipline d'Isco? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses que nous ne voyons pas, tu vois? Et je me pose en fait la question sur le débat Isco, parce que ça fait surtout en plus Lopetegui, un mec qui l'a fait débuter avec la Chumenti, ou non, avec des choses comme ça. Et c'était clairement un de ses chouchous, un peu comme Rodrigo avec la sélection. Avant qu'il quitte pour Madrid, du coup, je me pose la question. Après, juste pour revenir par rapport au Barça, moi, je pense que ni le Madrid ni le Barcelone peuvent se permettre de faire des, comme on dit en espagnol, apuestas, c'est-à-dire des expériences avec le 11 de base. Zidane l'a fait l'année passée, il a pris 3-0 dans les dents. Je pense que ça a servi de leçon, et je pense que même si un joueur n'est pas forcément très en forme, comme Rakitic va jouer, je pense que, comme il l'a très bien dit, le collègue d'avant, bah, je pense que Benzema, Bale et puis Kroos, Modric vont jouer titulaire aussi. Là, le Lopetegui ne peut pas commencer maintenant à faire une révolution pour son dernier match ball, quoi. Puis après, pour terminer, je profite que je suis sur la lancée par rapport au Barça. Moi, je pense que les supporters Blaugrana sont beaucoup trop exigeants en fait, avec Valverde. C'est-à-dire que l'année passée, il fait une saison historique, façon de parler, parce que le Valence, au tout début, le suit très près, mais le Valence n'a jamais réussi à être à plus de 4 points du Barcelone, alors que même le Valence a fait un début de championnat en fanfare. Et en championnat, l'année passée, le Barcelone était vraiment au-dessus de tout le monde. Et cette année, il n'y a pas que le Barcelone qui peine un peu. Bon, on n'a qu'à voir l'Atlético, on n'a qu'à voir le Madrid, on n'a qu'à voir le Valence. Et si ce week-end, le Barça... Bah, le Madrid, ce qui est possible, vu qu'il joue à domicile, je ne serais plus à combien de points il serait d'avance. Mais là, ce serait vraiment un grand pas en avant pour déjà éliminer un concurrent direct, je pense.
Ils auraient juste 4 points d'avance, je crois. Si Barça gagne, oui, c'est hyper resserré. Là, pour l'instant, ils ont un point seulement de différence.
Tu es sûr qu'ils ont qu'un point?
Sur l'Espagnol, oui.
Sur l'Espagnol.
Non, ouais. Je parle sur le Madrid, hein, en Madrid-Barcelone. Hein.
Là, j'ai sous les yeux, il y a 4 points d'écart entre le Barcelone et le Real.
Alors, voilà, bah, c'est ça, ils en avaient déjà 4 alors.
Après, ce serait de loin fini, mais 7 points déjà, étant donné les circonstances, si le Madrid perd, le Lopetegui saute, il y aura un nouvel entraîneur qui vient, il faudrait attendre l'adaptation. Je pense que si le Barça gagne le Madrid cette semaine, à mon avis, ce n'est pas définitif, mais ce serait, à mon avis, déjà, je ne sais pas comment dire, mais... bien parti pour que le Madrid soit déjà un concurrent au moins pour la lutte pour le titre.
Est-ce qu'on ne reviendrait pas je suis tombé sur une stat ce matin. Valence était devenu champion d'Espagne en 2003-2004, il me semble. C'était 2001-2002, avec 12 matchs nuls. Est-ce qu'on ne reviendrait pas à une Liga à des hauteurs bien plus basses? Parce que, par exemple, Nuno Espirito Santo, quand il a fait quatrième avec Valence il y a quelques années, il avait battu le record de points de Benitez quand il est devenu champion d'Espagne.
Ouais, il avait fait 77 points.
Ah bah après, il faut dire aussi que les dernières Ligas où on avait passé, on était aux 100 points, etc., c'était extraordinaire.
C'était extraordinaire, c'était un peu… Fin...
Voilà, donc maintenant qu'on revienne à des standards un peu plus bas, ça me semble tout à fait logique.
C'est revenir des standards depuis que Tebas, l'une des seules bonnes choses qu'il a fait dans la Liga, c'est qu'il a réparti les droits TV. Ça fait 2 ans maintenant que le championnat il est beaucoup plus serré. Enfin, là, c'est la troisième saison maintenant.
Oui, et puis il y a aussi beaucoup d'équipes qui jouent vraiment le jeu, qui ne viennent pas en victime. Par exemple, l'Éventé, il y a quelques années, est-ce qu'ils auraient gagné, au Bernabéu? Est-ce que ça fait 2 saisons qu'ils sont très bons là-bas? Est-ce qu'il y a quelques années, ils ne seraient pas venus en disant, bon, allez, ce match-là, on ne le joue pas, et tout ça, on va perdre. Donc, voilà, il y a beaucoup plus d'entraîneurs avec des personnalités aussi.
Ouais, c'est sûr. Bah, c'est une question de cycle, je pense aussi. Hein. C'est maintenant, heureusement pour nous que les 100 points, c'est terminé parce que franchement, c'était. Et puis d'un côté, bah, ça fait chier à la presse nationale parce que c'est bon, quoi. Que le Madrid-Barça, il y a l'Atlético qui a commencé à venir en 2014, je crois, 2015. Ils sont venus titiller un peu, ils ont gagné le championnat. Et là, maintenant, bah, j'espère que cette année, ce serait joli pour le spectacle, que du coup, il y ait plus de candidats, il y ait plus de prétendants au titre, on va dire.
Ouais. On va refermer sur ce chapitre Barça et Classico avec votre pronostic chacun. Adrien, on t'a pas trop entendu.
C'est vrai, je dis allez, 2-0 Barcelone.
Moi, Michel, je mets un 3-0 pour le Barcelone.
Ah ouais, t'es large.
Ah ouais, je suis large, ouais, clairement. Ouais. Je crois qu'ils vont prendre une raclée dès l'entame de match, ça va partir en couille. Je le vois venir croquer une maison, c'est qu'ils sont de Madrid. C'est pas un club qui sait gérer la pression, tu sais, comme ça, médiatique et tout, ça l'aurait jamais bien été, en fait. Et quand ils sont comme
pour
ça,
un club
en général.
Qui a gagné 3 champions de suite, ils s'en sont bien sortis quand même, je trouve, à gérer
ah non,
la pression médiatique.
Quand je te dis non, la pression négative, hein, je te parle pas de la pression
positive. Ah oui,
non,
parce
qu'ils
la pression
ont...
négative, c'est autre chose. Ça,
je
je
me
te
suis
rejoins.
mal exprimé.
Ouais, Isco a l'air très nerveux. Hein. En conf de
Ouais.
presse,
Si
j'ai
tu
pas
regardes
suivi
les.
j'ai suivi les bonnes phrases, ça. Je sais pas.
Si tu regardes les deux derniers classicos que le Madrid a entamés en tant que crise médiatique, ils ont pris 6-2 à l'époque au Bernabéu. Là, j'ai vu sur Deportes Cuatro, en fait, ils ont fait un reportage. Et là, l'année dernière, ils prennent 3-0 au Bernabéu quand ils étaient déjà pas. Le Madrid est un club qui a besoin de sérénité, qui a besoin, tu vois, d'avoir une stabilité. Et puis, quand ça n'allait pas en Liga, ils avaient la Ligue des Champions pour se réconforter. Et même là, en Ligue des Champions, je crois qu'ils ont fait un faux pas récemment. Et puis, en fait, il y a le coach, quoi, qui est vraiment, tu vois, le Madrid est un club, à mon avis, qui ne. Voilà, eux, ils ont besoin de stabilité. Ils ont. Alors, respect à ce qu'ils ont fait, hein, 3 Ligues des Champions de suite. Ça, je pense qu'il n'y aura aucun club, à mon avis, qui vont le faire d'ici là. Mais il y avait, voilà, il y avait un homme de confiance, il y avait tout qui allait derrière, quoi.
Miguel.
Écoute, moi j'ai très peur, vu l'état des deux équipes, qu'on voit un match assez pourri, assez faible. Du coup, même si j'aimerais évidemment que le Real gagne, je pense qu'on va assister à un match nul, 1-1.
Et moi, je joue la grosse cote et je joue le Real Madrid. Alors,
Ok.
bon, compliqué de me taxer le madridiste, très honnêtement. Mais tu vois, c'est comme quand un boxeur sent qu'il va aller au tapis, que la jet est sonnée.
Ouais. Ça,
Tu vois,
c'est le sport de champion.
il se rue pour aller. Non, même pas. Il se rue à l'attaque pour essayer de mettre KO. Alors, généralement, il se fait aligner quand même. Mais tu vois, la réaction d'orgueil la
Ouais,
réaction
je pense qu'à
d'orgueil.
l'orgueil, le Real peut réagir, mais
Ouais.
dans le jeu, ça m'étonnerait que du jour au lendemain, il commence à jouer.
Je crois même pas ce que je raconte, hein. Mais
Ouais, voilà. Mais après, ça peut être qui
je
tout
joue
double, je
parce que comme
pense,
vous
en
avez mis
fait.
comme faut bien équilibrer. Mais le Real est un, je pense qu'il y a des joueurs qui sont
Je pense que peut-être ce
capables de
statut
trembler.
d'outsider, ça peut les motiver encore plus, justement, sachant
Mais
qu'ils
de
ont
toute
tout
façon,
ça
un
à perdre, tu
classico,
sais
ça
pas.
les motive, hein. De toute
Ils
façon,
ont
quoi
rien à
qu'il
perdre.
arrive.
Si ça, ça te motive pas, je sais pas.
Clairement,
Ouais,
le
mais.
Madrid, ils sont capables de gagner ce week-end et puis perdre la semaine d'après, hein.
Oui, c'est ça,
À
mais
mon avis.
à l'influx, tu le gagnes parce que c'est partidaire, mais tu es à l'influx.
Clairement.
C'est pas l'entraîneur qui te fait gagner, c'est pas un truc tactique. Tu vas. C'est la phrase de Perceval, qu'on n'a pas de technique, il faut y aller à la zobe.
Je pense que l'avantage pour le Madrid est que Messi n'est pas là. Et l'inconvénient pour le Madrid, c'est que le Barça n'est pas forcément très bien non plus. Tu vois, donc le Barcelone ne va pas arriver déjà non plus en mode excès de confiance parce qu'ils sont pas. Ils ont fait un bon match contre Séville. Mais avant ça, le Barcelone n'était pas non plus serein. Et puis il y avait quand même aussi, comme je disais avant, une certaine pression à Barcelone médiatique parce que le match nul contre le Valence. Avant ça, je crois que. Ils font aussi un faux pas. Donc, je pense que le Barcelone ne peut pas non plus arriver en étant. Tu vois, ils sont pas non plus. Ils sont pas comme l'année
Ouais, mais
dernière.
tu vois, contrairement au Real, ils ont des joueurs qui rapportent des points. Que ce soit Ter Stegen dans les buts, ou bien bon, bah, Messi serait pas là, mais même Coutinho, Suarez, tu sais qu'ils peuvent te rapporter des points. Côté du
Ouais.
Real, tu te demandes plutôt qui va faire une connerie.
Ah, c'est sûr, ouais, c'est clair.
En tout cas, en ce moment, après, peut-être que bah, voilà, on sera surpris. Puis voilà, Benzema va implanter un doublé. Hein. Bon, j'y crois pas du tout, mais on sait jamais.
Ah, j'ai bien aimé quand même. Il a pas trop mal joué.
Non, c'est ce qu'on disait en début. Il a fait un bon match. Il a fait une entrée très intéressante, Benzema.
Il a fait un bon match. Hein.
On va passer à notre focus sur le Dauphin du Barça, justement. Ici. Et c'est un club qui est également catalan, le club de ouais. Cornellà, l'Espagnol de Rubi, qui est deuxième du classement. Et alors ça, c'est la sensation de ce premier quart de championnat, parce que quiconque a suivi la Liga régulièrement depuis ces dernières années, notamment avec Quique Sanchez Flores, voir l'Espagnol deuxième en ayant perdu Gérard Moreno, c'est une hallucination complète. Et hier, ils ont gagné 2-0 contre Huesca, le promu, l'ancien club de Rubi, avec un doublé de Borja Iglesias, qui était, pour ainsi dire, l'unique transfert majeur de l'été à l'Espagnol. Et voilà, deuxième du championnat, avec un jeu sans être fou, mais cadré, bien assimilé par les joueurs. Et donc, énorme surprise avec les Pelicos qui sont deuxième. Miguel ?
Bah. Premièrement, je trouve que déjà, il faut louer le travail de Rubi qui fait un travail exceptionnel. Et je trouve qu'il a réussi quelque chose d'assez dingue avec cette équipe, c'est qu'il a réussi à la rendre polymorphe un peu. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une équipe qui s'adapte suivant le rival. C'est-à-dire que suivant le rival, elle peut très bien décider de jouer avec un bloc bas pour contre-attaquer, parce qu'elle a les joueurs pour le faire. Mais face à un autre adversaire, elle peut très bien décider de prendre le jeu en main et de prendre l'initiative dans le jeu et de jouer avec le ballon. C'est et c'est assez impressionnant ce qu'a réussi à faire justement Rubi avec ça, de créer cette équipe qui peut jouer de différentes manières, qui peut s'adapter selon soit les phases de match, soit les adversaires. Et il a aussi réussi à un savant mélange de jeunes joueurs, de vétérans et de joueurs entre les deux âges. Avec les vétérans, on peut citer Sergio Garcia, on peut citer Darder, on peut citer Diego Lopez, qui ont des joueurs qui ont beaucoup de matchs à leur actif. Voilà. Parmi les jeunes joueurs, on a des Marc Roca, on a des Hermoso, par exemple. Et puis, tu as les joueurs entre deux, typiquement un Borja Iglesias qui a seulement, on peut dire que 25 ans, mais où c'est sa première vraie saison en première division et qui régale. Et du coup, Ce savant mélange de Rubi, ça en donne une équipe qui est extrêmement difficile à déstabiliser et à battre.
Ils sont imbattables à domicile d'ailleurs.
Oui, à domicile, ils ont pas perdu à domicile.
Ils ont gagné tous leurs matchs, tout simplement.
Ouais. C'est quand même incroyable le boulot de Rubi quand tu vois avec qui il est parti avec Huesca la saison dernière. C'est incroyable tout ce qu'il a fait. Là, arrivé avec l'Espagnol, franchement, c'est beau. Hein. C'est ce que vous disiez. Mélange de vieux briscards de Liga, les Lopez, les Piatti, les Granero. Et là, ce mélange avec les nouveaux joueurs qui débutent en Liga. Et franchement, c'est du beau boulot. À voir pour la suite. Hein. Franchement, c'est intéressant.
Je voulais parler en fait en tant que Valencien qui connaît un peu le directeur sportif. Profeté qui fait un travail exceptionnel.
Tu m'as devancé, Michel.
Ah, autant pour moi.
Je vais te lancer là-dessus. Ouais.
Ok, je l'ai grave mauvaise en fait, parce que pour moi, j'aime beaucoup notre président. Enfin, notre président n'est pas Anil Murti, mais plutôt Matteo Alemagne et le directeur sportif qu'on a. Mais pour moi, la meilleure présidentielle que nous avons pu avoir au club, c'était Amadeo Salvo pour moi et puis Profeté. Et le fait est, le travail qu'il a fait, pour moi, était juste formidable. Et puis, il est en train de le confirmer maintenant à l'Espagnol. Donc, pour moi, ce n'est pas une coïncidence. C'est un directeur sportif qui, avec trois cacahuètes, en fait, il arrive à te faire une équipe. Et après, concernant Rubi, ce qui est incroyable, c'est qu'il s'est fait licencier, s'est fait limoger du Levante quand le club a été relégué cette année-là. Pardon. Et là, il est en train de faire un travail exceptionnel avec l'Espagnol. Et je pense que l'Espagnol, cette année, va sûrement, à mon avis, comme malheureusement beaucoup d'équipes en championnat, baisser, parce que dès qu'il y a les blessures qui arrivent, etc., c'est toujours compliqué. Mais je pense que c'est clairement une équipe qui peut récupérer sa place qu'avant a toujours eue, c'est-à-dire une équipe pour lutter pour les places européennes et pourquoi pas une participation à l'Europa League.
Tu parles de Levante, il y a aussi son départ de Gijón. qui avait été, il a été remplacé par, par Abelardo, qui avait sauvé le club in extremis. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, Benjamin Brochet a écrit en mai dernier un portrait de Ruby au moment où Huesca était aux portes de la Liga. Donc voilà, il a été adjoint au Barça, c'est un très grand admirateur de Tito Villanova et de Pep Guardiola, évidemment. Et puis il a été à Gilon avant Pablo Machin. Voilà, donc c'est un entraîneur qui après Huesca, reste sur sa lancée et déjà on en parle pour le club voisin. Déjà, son nom circule, ouais, évidemment. Ah ouais, de toute façon, un jour ou l'autre, les noms circulent. Ceux qui sont passés en Catalogne, quand tu fais la liste, tu as toujours des sacristanes, tu as toujours les anciens qui.
Bah, celui, il n'est pas catalan, non ?
Si. Joan Francesc Ferrer. Tout le nom est catalan.
D'accord.
Lui ne veut pas. Ouais, Joan Francesc Ferrer. Donc, voilà, de Vilassar de Mar. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'espagnol? J'ai trouvé la petite transition pour la Segunda. Je sais, Adrien, tu sais tout de suite de quoi je vais parler.
T'inquiète. Du match là-bas, j'imagine.
Exactement. Bon, on va passer à la
Segunda. Juste pour terminer, Miguel, excuse-moi de te couper, pour l'espagnol, moi, si je suis en train de regarder, si je ne me trompe pas, les deux dernières années, l'espagnol a été un club qui. Alors, je ne vais pas dire qu'il luttait pour le maintien, mais c'était pas très loin, en fait. Et là, tous les points qui sont en train de prendre maintenant, c'est bonus pour la suite. Hein.
Oui, mais il y a des saisons où je crois que la première saison de Quique Sanchez, ça jouait extrêmement mal. Ils ont fini premier à la table en fin de saison. Ouais. Parce qu'ils avaient fait une petite série de 3-4 matchs, ils avaient fini 8e, alors qu'ils n'avaient absolument rien fait de l'année. Et ça l'avait sauvé, mais je comprends pas comment le board avait pu le garder. Et là, en plus, le board avait fait un peu n'importe quoi la saison dernière. Il avait viré en 3-4 journées de la fin. Enfin, bon, ça avait pas trop de sens. Et je crois qu'en plus, je trouve que Quique Sanchez a beaucoup perdu de son club d'entraîneur.
Ah, clairement.
Je me rappelle ce qu'il avait fait à l'Atlético et à Valence notamment. Même si à Valence, c'était un peu plus mitigé.
Bon, à Valence, ils critiquaient qu'on s'ennuyait, mais en attendant, ils nous avaient quand même qualifié en Ligue des Champions. Hein.
Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est une personnalité particulière, Quique Sanchez aussi. Hein.
Ouais, non, c'est sûr. Après Watford, je crois qu'il se plante en Angleterre.
Ouais, donc Mais là, peut-être aussi que Ruby est peut-être plus discret aussi. Ouais. Et que ça joue là-dessus. On passe à la Segunda. Le retour des bonnes vieilles habitudes. On est revenu avec un peu plus de retard sur Segunda cette saison. 10 journées ont déjà été jouées. Et donc, on reçoit Adrien Rodriguez, le patron de la Peña Granada. Granada qui est troisième. L'espoir revient. On fait un petit point sur le classement. Malaga 22 points. Alcorcón 21 points. On en parlera d'Alcorcón bientôt. Avec notamment Elias et Pablo. Qui ont fait un petit détour par Madrid d'ici quelques temps, parce que c'est entraîné par Cristobal, l'ancien du Deport, et Manjalin, l'ancien du Deport aussi, du Super Deport. Et donc, c'est la grosse surprise avec 21 points. Granada qui est 20e, le Deportivo 19, Las Palmas 18, Mallorca 15, Oviedo 15, Albacete 14. Ça a des saveurs de Liga, tout ça.
C'est beau, c'est beau.
Ouais. Alors, on peut aussi Almeria derrière, Sporting. Rijon, donc ça fait la saison est très relevée, Adrien. Je sais pas ce que tu en penses, mais quand on voit le classement, on se dit que les places vont être très très chères.
C'est très très serré. Et pour venir sur Alcorcón, Grenade a joué là-bas, c'était samedi, et dans les tribunes il y avait Marquez, le Mexicain, et Honda. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas, s'ils avaient des contacts avec les agents, ils étaient en tribune pour voir le match. Je ne sais pas du tout pourquoi.
Alors,
je ne sais pas si vous, ça dit quelque chose.
Alors, Alcorcón, déjà, pour y être allé avec le guichet fermé, parce que c'était...
Il faut y aller. Hein.
Enfin, bon, j'ai pas pu rentrer dans le GV match, mais j'ai pas pu rentrer dans le stade, j'ai pas pu acheter de ticket. C'est un concept. Hein. C'est-à-dire que le stade n'est pas plein, mais tu peux pas acheter de ticket. C'est le bout du monde. Hein. C'est vraiment...
Juste les gars, excuse de vous déranger. Moi, je vais devoir y aller parce que je dois envoyer, comme je t'ai dit, ce mail pour 21h.
Ah oui, c'est vrai que... Ouais. Ah oui, t'as une bonne excuse. Demain, Michel sera Young Boys de Berne, Valencia. en tribune voilà. De presse avec le grand Hector Gomez.
Voilà, puis je dois lui donner le toutes général. Les informations parce que la UEFA, il ferme à 21h.
tu es tout excusé.
Ok les gars, bon bah écoutez, je vous remercie et puis le week-end le lundi prochain, je serai de nouveau disponible là, donc ça c'est
cool. Ah bah formidable.
Ok, allez, je vous souhaite vraiment un très bon podcast et puis merci pour l'invitation.
Merci
les gars.
À toi. Allez,
au revoir. Bonne soirée à vous. Ciao.
Salut mec.
Donc Adrien, tu oui parce que il faut aussi préciser qu'il y avait des membres de la Peña Granada qui étaient à Corfin.
Ouais, il y avait Guillaume et Lucas les deux frangins que bah tu connais Guillaume, il était venu voir le match à Levante. Et il y avait surtout la Peña de Grenade qui est à Madrid et certains supporters qui ont fait le déplacement depuis Grenade. Ouais, ils étaient une petite centaine au stade. Et c'est vrai que ça a été un peu compliqué, un match assez fermé comme on s'y attendait.
Ouais, parce que Alcorcón, c'est une équipe extrêmement défensive.
Ah ouais, incroyable.
Attends, je vais te retrouver les stats. Ils ont encaissé que 3 buts depuis le début de saison.
C'est ça. J'ai vu que c'était la défense la plus efficace d'Europe. L'équipe qui a encaissé le moins de buts d'Europe.
C'est incroyable. Et c'est fou qu'on se rappelle le nombre de raclés que prenait le Deportivo avec Cristobal la saison dernière. Et là, ils sont en bonne position pour. Après, la saison est très longue. Hein. Il y a 42 matchs.
Donc, c'est ça.
Très très loin de. Puis après, il y a quand même des grosses différences de budget parce que tu prends Malaga, Grenade, Deport, Las Palmas. Mm. On est quand même sur des clubs beaucoup plus ambitieux en début de saison que.
Il n'y a rien à voir.
Est-ce que ça va suffire
C'est ça. Bon, après, c'est sûr que niveau budget, Malaga, le Deport, Las Palmas, le Sporting, Osasuna sont devant. Après, ouais, faut que ça suive. Hein. À voir. Mais ça va être super intéressant.
Tu peux nous parler de la saison de Granada parce que la saison dernière était quand même particulièrement décevante. On espérait. Ça joue au moins les playoffs, ça n'a pas été le cas.
Ouais, c'est vrai que on a une saison très très décevante. Ultra qui s'est fait virer en janvier, je crois que c'était en février, il me semble. La fin de saison a été catastrophique. On a le Moria qui était l'entraîneur de la réserve qui a récupéré l'équipe, qui s'est fait dégager, je crois, au bout de 3-4 matchs. Pour récupérer Portugal, ouais, ça s'appelle Portugal, qui est, je crois qu'il avait entraîné Valladolid, qui a fait une pige pour finir la saison. Et voilà, je crois qu'on a fini 9-10e, saison à oublier, alors que ouais, les ambitions étaient la remontée directe en Liga. J'étais en juin à Grenade pour la réunion des Peñas du club. Et il y avait des dirigeants du club qui étaient là-bas et qui nous ont fait un peu le débrief de la saison et voir ce qui allait se passer pour le mercato et les objectifs pour la nouvelle saison. Bon, c'est sûr, là, ils ont dit on va prendre les matchs après match, on verra ce qui se passe à la fin de la saison. Ça, c'est sûr, le budget sera beaucoup plus inférieur par rapport à la saison précédente, ça, c'est sûr. La descente y est pour quelque chose, hein. C'est la deuxième année en Segunda, donc on va voir. Je sais pas si tu m'entends encore.
Je t'entends parfaitement bien. Explique-nous le fonctionnement de la Peña, les déplacements, parce que c'est quand même particulier qu'une équipe comme Granada est une Peña française.
Mais ouais, on a monté ça il y a 3 ans avec Rafa et Kevin, les deux acolytes, et ça marche plutôt bien. On a fait plusieurs déplacements avec toi aussi. On a passé des bons moments.
Quelques-uns.
Ah ouais, on a fait les soirées à Tarragone, Barcelone ou Grenade. Ah, c'est des moments mémorables.
C'est ça. Juste, je vais raconter l'histoire de. Je vais raconter l'histoire de l'Espagnol parce qu'on est allé à Colmenar del Prat. C'était il y a 2 ans, il y avait Andrés Pereira qui jouait là-bas, qui a mis un très beau coup franc d'ailleurs. Ah ouais. Et on a eu Maya partir avec un berger allemand lors de la fouille.
C'est clair.
On a eu très très peur pour des parties intimes de notre anatomie. On a peur des chiens.
Ah ouais.
Et le chien était extrêmement nerveux et au niveau de, on était en parkage et en fait on ne sait pas trop pourquoi les policiers qui étaient en faction et donc qui étaient en charge de nous fouiller étaient était vraiment sur les nerfs et on n'a pas compris pourquoi parce que c'était vraiment le parquage familial par excellence.
Ouais, donc, c'est clair.
Avec la Casa de Andalucía de Barcelone qui nous reçoit régulièrement quand la Peña est passage. Et c'était vraiment très étonnant de voir pour autant de nervosité pour rien en fait. Parce qu'en plus, Cornelia n'est pas vraiment un stade chaud. Quoi. Donc,
non, il n'y avait personne. Et j'ai pas compris, même tu l'as vu, les supporters espagnols me disaient mais pourquoi vous faites ça? Ça ne sert à rien. Enfin, c'est exagéré quoi.
Ouais, je crois que tout, en plus quand on voit certaines personnes qui rentrent dans des parkages à d'autres matchs, j'ai un petit souvenir d'Ultrasour qui avait pu rentrer dans le parkage du Real Madrid à Mestalla. On dit qu'on n'est peut-être pas fouillé de la même manière en fonction de. C'était très voilà. Ouais. Jette pas la pierre au Real Madrid, hein, absolument pas.
Non.
Mais c'était pour relater l'expérience quoi. Voilà. Ouais. Donc en fait, ouais, donc la Peña parvient à faire des voyages réguliers en Andalousie et en Catalogne principalement, parce que vous êtes basé à Narbonne.
Ouais, ben moi je suis sur Narbonne avec Kevin. On est une petite quinzaine et c'est vrai qu'on est un peu dispatché un peu partout en France et on essaye de se retrouver, de faire un match de temps en temps. C'est vrai que le plus près pour nous c'est la Catalogne. Ben là cette année, il y a un début du mois, je suis allé à Reus. Je suis allé avec ma femme voir le match. J'ai retrouvé Emilio et la Peña de Barcelone là-bas, c'était très sympa. Première fois que j'y allais, c'est juste à côté de Tarragone, du coup, après Barcelone.
Et oui, il y a eu des matchs de Coupe de la Reine la saison dernière.
Ah, mais tu verrais le stade, c'est fou.
Ah, c'est une poubelle.
c'est incroyable. 3000 places, c'était dimanche midi, en zone industrielle, c'était incroyable.
Ouais, Reus, c'est le pire stade.
Je crois.
Le stade de Segunda, et il se pourrait bien que le club parte d'ailleurs. Il y a des rumeurs régulières sur la délocalisation de l'équipe. Oui, c'est un délire ce stade. Hein.
Ah, ça ne m'étonnerait pas. Ouais.
Oui, c'est en fait la Peña Granada, pour l'avoir vécu aussi, c'est une espèce de petite famille qui se retrouve régulièrement, que ce soit au Cármenes ou en Catalogne. On va rappeler que la Catalogne est considérée comme la 9e province d'Andalousie, parce qu'il y a énormément de monde.
C'est ça, clair.
Et donc, ils ont l'habitude de ces matchs-là aussi. C'est le moment de se retrouver, notamment la Liga TV qui était venue faire un reportage justement avant un match au Camp Nou.
Ouais, c'est sympa de revoir les mêmes têtes quand on se déplace. Et comme tu as dit, il y a beaucoup d'Andalous en Catalogne. Je crois qu'à Reus, on était une bonne centaine au stade. Hein.
Ouais, c'est régulièrement encore, oui, quand c'est en Catalogne, généralement, il y a ce qu'il faut. Et puis ça a inspiré l'exemple de la Peña française, a inspiré le Celta, parce qu'il y a une Peña. Je salue Damien, fier représentant du Celta en France. Valencia aussi vient d'être officialisé. Avec Christophe notamment, qui a été invité, qui était à un match contre les Ganes dans le Palco avec président pour fêter l'arrivée de la Peña française à Valencia. Donc puis après on parle évidemment des Peñas de Barcelone, je pense notamment à Navid. Voilà, mais c'est vrai que des clubs comme ça de moindre envergure, puis surtout qui a survécu à la descente, parce qu'on pourrait en plus s'imaginer qu'après à descendre, ça aurait pu être en sommeil, se dire bon voilà, ça vaut pas trop le coup de continuer.
Ah, c'est sûr que c'est plus dur de le suivre, même sur internet, trouver des streamings ou les suivre, c'est encore plus compliqué. Mais bon, on tient le coup, et franchement, vu la saison qui s'annonce, on peut être confiant. Parce que tu m'aurais dit ça en mois de juin, juillet, qu'est-ce qu'on allait faire cette saison et être dans les premières places du classement, j'aurais pas cru.
Parce que tu peux nous donner des joueurs à suivre à Granada?
Il y a Badillo, je sais pas si ça te dit, c'est numéro 7, l'ailier, qui est vraiment pas mal. Je crois qu'il vient de Huesca. Il est arrivé gratuitement, il me semble. Très très fort, très technique. Franchement, à suivre, c'est une bonne pioche de Grenade. Après, aussi, le petit chouchou du public cette année, c'est le petit Pozo, Alejandro Pozo, qui joue avec la réserve de Sevilla.
Qui a mis un très beau but il n'y a pas longtemps d'ailleurs.
Voilà. Et franchement, il est impressionnant ce jeune. Il est de, je crois qu'il a 19 ans, il est de 99. Il a joué, je crois que c'était son troisième match en tant que titulaire le week-end dernier. Donc il n'a pas commencé la saison, il a commencé la saison sur le banc. Il était voilà, un peu le joker de Martinez. Et il fait vraiment du bien. Il court partout, il sprint, il est décisif et il percute. Franchement, il est très, très, très bon. Et ça ne m'étonnerait pas de le voir en Liga dans les prochaines années. Après, voilà.
Est-ce que.
Ça en est Meterio aussi, je pense que. Désolé. Ça en
oui,
est
vas-y.
Meterio. Ça en est Meterio aussi. Très, très bonne recrue au milieu. C'est le 6 de base, tu vois. Il court partout. C'est un peu le N'Golo de Grenada. Il est incroyable. Mais pareil, il était à la réserve de Séville. Il a signé à Valladolid. Et il a été prêté avec option à Grenade. Je crois que l'option est à 2 millions, 2 millions d'euros. Et en cas de montée. Et franchement, il est impressionnant.
C'est
Impressionnant.
le même famille que le basketteur?
Mais je sais pas. Je sais qu'il a un frère jumeau qui joue à Lugo. Je sais qu'il a un frère jumeau qui joue là-bas. Ils sont affrontés là il y a pas si longtemps. Mais je sais pas s'ils sont de la même famille. Hein.
On ira vérifier. Moi, bah, comme je suis le Valencia Basket, évidemment, donc Fernando Sandamétalio, c'est joueur, ça, c'est à grande classe. Plus globalement, au niveau du classement, tu vois Grana rester dans les places hautes. Alors, on rappelle que les deux premiers montent directement et qu'il y a des playoffs entre 3, 4, 5 et 6. Pour l'instant, c'est position playoff avec le Depor, Las Palmas et Mallorca. Il y a du lourd cette année. Et moi, je pensais que Las Palmas serait plus haut, notamment parce qu'ils ont un très bon coach, Manolo Jiménez, qui a gagné le titre avec l'AEK Athènes, un dernier, l'AEK. Il y a Malaga, qui a pris Lopez Muniz, qui avait fait monter les Ventes il y a 2 ans. Moi, je vois bien Malaga remonter directement.
Ouais, Malaga, ils sont presque intouchables. Mais même si là, ils ont perdu à Elche, je crois, c'était vendredi.
Grosse surprise, ils ont pris 3-0.
Ouais, c'est ouais, non match, c'est tout. Voilà.
Parce que l'Elche, ils ont pris une raclée contre Cordoba en coupe au milieu de semaine. Je
crois
que 4-1 à la maison.
Ouais.
Alors Cordoba est avant-dernier, 21e, avec Sandoval, un entraîneur que tu connais très bien.
Oui. Très très sympa Sandoval, mais c'est à Grenade, il appelle un peu le cuisinier. Parce qu'à la base, on m'avait raconté une anecdote sur Sandoval. À la base, il est pas coach, hein, sans Sandoval, hein. C'est un gars, c'est un parleur, tu vois, il motive ses gars. Et on m'avait raconté que quand il avait récupéré Grenade, je crois que c'était ouais, dans les le, y a 3, en 2015, hein, l'année de l'Éventé, hein, que tu étais là. On m'avait dit que un soir, il arrêtait pas d'harceler ses joueurs, en fait. Il leur disait, surtout El Arabi, à Youssef El Arabi, il disait, toi, tu seras mon buteur. Toi, demain, contre Retafe, tu vas me planter 2 buts. Il arrêtait pas de les appeler la nuit et tout, et c'est ce qu'il a fait. Il a marqué 2 buts. C'était incroyable. Incroyable. Mais voilà, c'est à voir sur la durée, hein, comment ça se passe avec ça, avec Cordoba, c'est compliqué.
Ouais,
Nous, on
parce
l'avait
qu'il
avec. Ouais, voilà.
est parti, il est revenu.
Ouais, c'était un peu bizarre. Il y a Cordoba qui a des problèmes financiers. Ben, ils avaient pris Francisco à la base, hein, l'entraîneur de Huesca maintenant. Sandoval est revenu. C'est un peu à l'arrache tout ça. Mais bon, ça va être très très dur pour se maintenir.
La grosse surprise, c'est Cadiz aussi qui est en TP nultième, alors que ça jouait les playoffs.
Ah
Ça jouait
oui.
clairement les playoffs.
C'est ça. Ouais, j'ai vu qu'ils avaient pas mal de blessures aussi cette saison. Peut-être ouais, à la fin du cycle pour les Andalous. Je sais pas. À
Et
voir.
puis, y a pas mal d'équipes qui galèrent un peu. Tenerife, c'est surprenant, c'est Oltra, justement, qui était la saison dernière à Grenade, qui est revenu à Tenerife.
Ouais, un peu poussif, ouais.
Ouais, Saragossa qui est 16e et qui vient d'être le nouveau entraîneur, c'est Lucas Alcaraz,
Ben encore, ouais, encore une
que tu connais
connaissance, à
aussi.
voir, ouais. On va voir aussi, pareil, c'est un peu le même style, très très un coach sur la défensive qui joue pas mal sur un gros bloc derrière. Sur une demi-saison, ouais, sur une cour de saison, ouais, il peut faire quelque chose. C'est sur le long terme que c'est compliqué. Bah, tu l'as vu, hein, à Grenade, il a fait 2-3 piges à l'Algérie, il n'a pas tenu. À Almeria, il est resté une saison et demie. Voilà. C'est pareil, c'est un peu du, ouais, c'est du bricolage un peu. Mais après, on sait que voilà, Saragosse, c'est une ville de foot, c'est un club historique. Je crois que ils ont la meilleure affluence cette saison, ouais. Avec le public derrière.
Ouais, alors Madel, ah, oui,
Voilà.
ils ont. Oui, c'est Imadol Diakas qui a été viré. Là, j'ai vu que le président expliquait que le style ne changera pas. Ils vont quand même revenir très sérieusement aux bases avec Lucas Alcaraz. Ils vont pas. Ça va pas être du
Ouais,
football champagne.
c'est ça. Ça va être
Et
beau.
puis, ouais, le niveau est très relevé. Las Palmas, c'est un peu décevant parce que même s'ils ont que deux défaites, je pensais vraiment qu'eux, ils allaient vraiment survoler avec Malaga. C'est pas complètement le cas. Voilà le déport. Mallorca, c'est
Ils
vrai que
font
ça
une
fleurit
belle saison.
bon de retour. Moi, j'aimerais beaucoup un retour
Ah oui,
de
ben,
Mallorca.
quand ils ont joué à Grenade la semaine dernière, ils m'ont vraiment beaucoup surpris. Ceux qui jouaient le ballon, qui sont créés plus d'occasions. Bon, Grenade avait gagné au final, mais ça a été très très compliqué. Et ouais, belle
Mais là,
saison pour eux.
ils ont perdu 2 points contre Extremadura. Là, ils ont pris un penalty à la dernière seconde.
Ouais.
Bon point gagné pour Extremadura qui a notamment Diego Capel et le meilleur buteur Henry Gallego. Il y a un article sur Henry Gallego, un portrait dans Foria Liga qui est
Ah
sorti la
oui,
semaine dernière.
meilleur
Et
buteur, ouais.
on suit aussi le Rayo Majadahonda avec Loïc Gérardin qui va régulièrement au match. On ne sait pas si elle préfère voir les matchs au Wanda Metropolitano ou si c'est parce qu'il y a Zidane qui vient voir son fils.
Mais
On ne
ça doit
sait
être quelque
toujours pas.
chose quand
Hein.
même, hein. Ça doit être quelque chose de voir des matchs au métro là-bas, hein, au Wanda,
Oui, c'est
avec
très
quoi
plat.
il y a...
Justement, Chloé publie des photos des matchs
Ouais, j'ai vu un petit peu.
au Vanda et c'est vrai que ça fait bizarre parce que c'est un stade immense. Et ce qui est très amusant, c'est que le stade du Rayo Majadahonda sert de stade à l'Atlético féminin quand il y a des matchs de Ligue des Champions.
Ah
Voilà.
ouais.
D'ailleurs, l'Atlético a perdu 4-0 à Wolfsburg cette semaine, en milieu de semaine. Petit aparté, c'était un match plutôt pas mal, mais bon. Ça a tenu une mi-temps et puis le premier quart d'heure a été terrible. Ils ont encaissé 3 ou 4 buts vraiment en un quart de 20 minutes avant que ça se rééquilibre un peu plus tard. Ça progresse, mais après avoir sorti Manchester City quand même, qui était demi-finaliste. Là, c'est des finalistes. Wolfsburg, c'est quand même le calibre au-dessus. Elles ont gagné le derby à 6-1 ce week-end contre le Madrid Club de Football qui déçoit un peu.
Ouais, j'ai
Donc
vu
voilà.
qu'elles étaient premières au classement.
Ouais, largement d'ailleurs. Enfin, largement. Non. Elles sont leaders avec eux, en attendant le match Barça-Levante de mercredi. Un
Ouais.
match en retard. Mais oui, l'Atlético, double champion en titre. Et donc, c'est lié avec Majadahonda qui sont. Voilà, parce que la cité des sports, la cité la Ciudad Deportiva est à Majadahonda. Voilà. En fait, je cherchais une stat. C'est pour ça que je cherchais le. Oui, vous avez battu Mallorca la semaine dernière.
Oui.
Donc,
Ah, Los Carmenes, ouais.
voilà,
Une
c'est
autre
ça.
équipe aussi qui surprend cette saison, c'est Albacete. Je sais pas ce que si tu as regardé
Oui,
un petit peu.
Lucasso, on parle du
Mais...
retour du Lucasso Mécanico, hein,
Ah ouais,
qui a fait
incroyable,
match nul ce week-end d'ailleurs, si ma mémoire ne me trompe pas.
hein. Je sais plus, mais
Contre
ouais,
oui, contre
franchement, c'est
Almeria,
très
oui.
bien.
C'est ça. Oui,
Ouais,
c'est
très
ça
très
aussi le
solide.
club qui a connu la Liga il y a quelques années. D'ailleurs, interview de Laurent Viaud il y a quelques semaines qui a joué à Alba, c'était justement. Qui n'avait pas trop où y débarquer et en fait il a adoré l'Espagne. Il a joué avec Extremadura et Albacete et il suit ça de très près, notamment sur Twitter où il poste régulièrement. Petit pronostic, tu vois quoi toi comme les deux premiers qui montent? On va dire non, qui va être non, on va dire à la mi-saison qui tu vois dans les deux premiers.
Allez, je veux bien ben Malaga. Allez, le Depor, je vois bien le Depor quand même, ils sont pas mal, hein.
Là, ils ont
Malaga Depor.
très bien recruté le Depor.
Ouais, franchement, c'est solide, hein.
Là, ils ont une équipe
Gren
qui
et,
est
ouais.
quasiment une équipe de Liga hein, qu'ils ont.
Oui, clairement. Et Grenade, ouais, dans les playoffs, ouais, il faudrait tenir les playoffs. Parce que c'est vrai qu'on
Miguel,
a. Comment?
vas-y, vas-y, vas-y.
Ben, faut voir sur la durée avec Grenade parce qu'on a une. Ils ont une équipe assez. On a planté il y a. Raccourci, on va dire. Il manque, on va dire, 2-3 joueurs. Il faudra sûrement se renforcer au mercato, surtout en défense. Hein. Et faire attention avec les blessures, les suspendus. À voir. Et franchement, je suis très, très content du boulot de Diego Martinez. Il fait du très bon boulot, ben, l'ancien coach d'Osasuna. C'est un bosseur. Tu vois que à la 85e, Grenade mène 3-1 ou 2-1. Pas grave. Les joueurs pressent, ils font le boulot, ils font le taf et ils lâchent rien, quoi. Et franchement, c'est très très beau.
Miguel, on t'a très peu entendu pendant ce passage secondaire.
Ouais, parce que j'ai pas vu beaucoup de matchs de Segunda depuis le début de la saison, donc je laisse parler plutôt les experts au lieu de dire des bêtises.
Mais Alcorcon, en tant que Madridiste, ça te parle?
Ah bah oui, bien sûr, très bon souvenir.
Les pizzas à la mi-temps.
Ah putain.
L'alcool qu'on a. D'ailleurs, pour la petite anecdote, dans un local d'une pignade de Grenade, il y a une écharpe alcool qu'on a. Voilà, à côté de Carmenès.
Ouais, parce qu'il y a, je crois que c'était en 2010, on est monté de Segunda vers Segunda sur leur stade, dans leur stade. Et c'était une montée historique pour le club. Hein. Historique. Et je crois qu'il y a quelques années aussi, on a perdu contre eux en coupe, en Copa del Rey, au penalty. Bref, c'était du coup, ouais, c'est l'Alcorconazo est revenu à ce moment-là aussi. Ouais. Et c'est vrai que ça reste une rivalité, pas autant qu'Elche, je pense, avec Grenade, mais c'est un duel important entre les deux clubs.
Mais tu reviendras pour nous parler de la rivalité avec Elche.
Ok.
on va refermer ce podcast. Adrien, merci d'être passé.
Avec plaisir, les gars. C'est moi.
Est tout cas, ça. Hein.
Ah, muchas gracias.
Miguel, merci à toi.
Vous, les gars.
Bah, je t'en prie. Non, c'est toujours un plaisir.
Oui, alors, vous pouvez nous suivre sur foyaliga.fr, sur YouTube, sur Twitter, Facebook. Vous pouvez aussi cotiser entre PayPal si vous avez envie de nous donner un petit billet pour. Pour faire des déplacements, faire des choses comme ça. Promis, Benjamin Bruchet, non, il n'utilisera pas ça pour manger libanais. On vous le promet. on salue Benjamin, qui a préféré passer une soirée avec sa chère étante plutôt que d'être avec nous ce soir. On t'en veut pas, Ben.
Ça se comprend.
Ça se comprend, effectivement. Effectivement. On peut pas lui en vouloir. Il travaille suffisamment comme un fou le reste de la semaine pour lui autoriser quelques plages de repos. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Alors celui-là, je pense qu'il sera intégralement consacré au Classico. Il peut y avoir un tremblement de terre à Madrid ou à Barcelone.
Ah, pourquoi
plus
pas.
Vraisemblablement à Madrid, mais ça peut faire très très mal cette histoire. Donc, et peut-être qu'on commentera le Classico. Ah. Attention.
Donc, je peux dire un petit quelque chose, les gars?
Bien sûr.
Mais je voulais juste faire un petit coucou aux copains de la Peña. Et aussi aux autres admins des comptes français sur Twitter, Facebook.
Tout à fait, t'as tout à fait raison de le faire, oui.
Et Foot en Espagne. Et vous, les gars, franchement, vous faites du grand boulot. On ne parle pas souvent de vous. Et franchement, vous faites du très, très grand taf sur toute la Liga et l'Espagne en général. Franchement, vous vous régalez.
Merci. C'est un boulot d'équipe, tout ça, et c'est pas que nous, t'as raison, les comptes français, les peignas qui se montent, ouais. Voilà, pour montrer que le football espagnol est quand même très riche et n'est pas bipolaire, même si évidemment on aime cette rivalité entre Blaugrana et Merengue, mais ce n'est pas que ça le football espagnol.
C'est ça.
Il faut montrer que ce ne sont pas que les clichés du football espagnol, que même Tebas arrive à faire des bonnes choses. Que tout arrive et que ce football-là, l'essence du football espagnol est quand même protéiforme et passionnante. Donc voilà, on fait de notre mieux et puis on sait que c'est un boulot d'équipe. Donc évidemment, on va continuer à le faire et on va y arriver, non? Todo llega, comme on dit à Leganés.
Eh oui.
Merci à vous deux, merci à vous de nous avoir écoutés. Ça sera bientôt disponible sur YouTube et sur les différentes plateformes pour télécharger Spotify et iTunes notamment. On se dit à lundi prochain. Allez, hasta luego, ciao.
Hasta luego. Ciao.